Mahomet par Jules Chancel. Contrairement à ce que disaient de Mahomet ses détracteurs, il ne s'est jamais donné pour un dieu, mais simplement comme son prophète. Il ne chercha même pas à faire croire qu'il était doué d'une puissance surnaturelle, puisqu'il disait « Les miracles sont dans la main de Dieu, et moi je ne suis chargé que de sa prédiction. » Quant à sa sincérité, elle est indiscutable comme son génie, que l'étude seule de cette formidable somme de philosophie pratique qu'on appelle le Coran suffit à établir. Ahmada, le très loué, qui par corruption est devenu Mohammed, puis Mahomet, naquit à la Mecque en l'an 571, d'une famille si modeste et si pauvre que longtemps l'on refusa de croire à sa mission divine, parce que les grands seigneurs arabes affirmaient péremptoirement que Dieu n'avait pu choisir pour apôtre un homme de si basse extraction. Son père, qui s'appelait Abdallah, mourut quand il était tout petit, et sa mère, Amina, dans l'impossibilité de nourrir cet enfant, le confia à une jeune bédouine qui l'emmena au désert. Il vécut ainsi auprès de sa nourrice jusqu'à l'âge de 5 ans, et la légende ajoute que 2 anges fondirent en ce moment sur lui et ouvrirent sa poitrine pour verser dans son cœur la foi et le courage. À 9 ans, ne possédant d'autre soutien que son oncle, le vieux Abu Taleb, il dut, pour gagner sa vie, se faire berger, puis il monta en grade et devint conducteur de caravane. C'est grâce à ses voyages qu'il alla en Syrie où il puisa, sans doute, ses notions sur le christianisme qui sont celles des sectes nazaréennes, ce qui fait que la religion de Mahomet doit en réalité autant aux juifs qu'aux chrétiens. Ce serait également un moine chrétien nommé Bahira, qui, devinant ses dons pour la prophétie, l'aurait lancé dans cette carrière où il devait si brillamment réussir. Mahomet arriva ainsi jusqu'à l'âge de 20 ans, et à cette époque, il entra au service d'une veuve riche qui s'appelait Khadija. En réalité, on peut affirmer que ce fut à cette femme que le mahométanisme doit son existence. Elle s'intéressa en effet tout de suite à ce valet méditatif, et dont les rares paroles étaient empreintes d'une grandeur qui l'impressionna. Elle comprit que cet homme était né pour des tâches plus élevées que celles d'un simple domestique, et dans le désir d'aider une destinée qu'elle pressentait magnifique, elle offrit à Mahomet de l'épouser. Mahomet accepta, mais 5 ans plus tard seulement. À partir de son mariage, grâce à la puissance de l'argent, l'ancien valet devint vite un personnage important et influent. Sa sagesse, ses façons de grand seigneur inspiré, l'imposèrent à ses concitoyens et les commerçants les plus riches de la cité prirent l'habitude de le désigner comme arbitre dans leurs différends. Un petit événement local prouva l'importance qu'il avait su prendre dans la Mecque. Il s'agissait de célébrer par une cérémonie la pose de la pierre noire, la pierre des sacrifices, dans le temple sacré de la Kaaba. Les plus hauts personnages de la ville se disputaient l'honneur d'être désignés pour poser cette pierre, objet de vénération pour toute l'Arabie. Ils ne pouvaient arriver à s'entendre et s'adressèrent à Mahomet. Celui-ci alors fit poser la pierre noire sur un tapis dont les 4 coins étaient tenus par les représentants des plus grandes familles de la ville. Ceci fait, il souleva lui-même la pierre et la posa dans la niche qui était préparée pour la recevoir. Personne n'osa protester contre l'honneur qu'il s'était adjugé. Ce n'est qu'à 40 ans passés que Mahomet commença sa carrière de prédicateur et de prophète. Il paraît avoir attendu avec beaucoup de sagesse le moment favorable. À cette époque, le paganisme agonisait. Les chrétiens avaient introduit dans le Hedjaz les idées d'un dieu unique et l'humanité aspirait à une forme de religion plus élevée que celle qu'il avait contentée jusqu'alors. On signalait déjà dans certaines régions d'Arabie une secte qui s'appelait les Ouïfs et qui pratiquait une doctrine venant d'Abraham, dont les formules extérieures consistaient dans la suppression du vin, des sacrifices sanglants et dans la vie ascétique. Selon les habitudes de la Thébaïde, Mohammed, dans le mois du Ramadan, s'était retiré au mont Hira pour y méditer solitaire avant de se lancer dans l'action. Ici encore, intervient la légende qui se retrouve dans le Coran. L'ange Gabriel se serait présenté au prophète durant cette retraite et lui aurait tendu un parchemin en lui disant « Lis ». « Je ne lirai point, » répondit Mohammed, et l'ange insista, « Lis, au nom de ton Seigneur qui t'a créé et qui est celui qui apprend. » Le prophète rentra alors dans sa maison et annonça à Khadija, son épouse, la vision qu'il venait d'avoir. Celle-ci se refusa d'abord à croire à une intervention surnaturelle, mais elle alla faire part de ses scrupules à un savant du nom de Waras. Le savant lui affirma que son époux avait dit vrai, et que sans le moindre doute, il avait été choisi par Dieu pour devenir l'apôtre des Arabes, comme l'avait été Moïse en Judée. Ici se pose un point d'interrogation. Mohammed, homme prudent et de sens raci, a-t-il cru lui-même à cette vision? On peut répondre hardiment oui. Cet ange Gabriel, nous explique Renan, c'est l'extase dans laquelle il se plongeait. Les traditions les plus authentiques s'accordent à le présenter souffrant de ces crises prophétiques comme la pitié, des vapeurs du trépied. La sueur coulait alors de son front, ses yeux devenaient rouges de sang et l'attaque se terminait par une crise léthargique. Donc, pas de doute, le créateur de la nouvelle religion était tout au moins ce que de nos jours on appelle scientifiquement un sujet. Il possédait la double vue et cela aide à expliquer l'ascendant qu'il a su prendre sur les masses. Le voici donc qui commence par chercher des adeptes, des disciples, parmi ses parents et ses amis. Il trouva ainsi ses filles, son esclave affranchi, son cousin Ali, un ami Abou Bakr, et même quelques notables habitants de la Mecque. C'est à cette poignée de fidèles qu'il commença de donner les premiers principes de sa religion, qui consistait d'abord dans l'affirmation pure et simple de l'unité divine. Allah est le seul Dieu, créateur et souverain de toutes choses, l'homme et sa créature. Avec une largeur de vue qui prouve son génie, le prophète glissa rapidement de la pure doctrine théosophique aux préoccupations d'ordre social qu'il prétendait également réformer. Pour lui, la richesse était la source de toute corruption et son seul correctif était l'aumône, qui devait être largement distribué aux pauvres, aux infirmes et aux orphelins. On trouve, dans de très nombreuses sourates du Coran, cette préoccupation de l'orphelin dans laquelle il faut voir sans doute un souvenir de son enfance abandonnée. Le voici maintenant qui cherche à élargir sa zone d'influence et pour cela, il ne craint plus d'affirmer hardiment le caractère divin de sa mission. C'est Allah qui parle par sa bouche. Mais il se heurte à l'indifférence, à l'incrédulité et même à la raillerie des riches marchands. Alors il se fâche et menace. Ceux qui ne croiront pas ce que je leur dis au nom d'Allah seront punis au jour du jugement dernier. Les peuples seront détruits, comme ont été détruits Pharaon et son armée, Sodome et Gomorre. Il y avait déjà à cette époque, à la Mecque, de grands pèlerinages. Des Arabes, des Syriens venaient de tous les coins de la péninsule adorer sur la pierre sainte de la Kaaba, les dieux nombreux auxquels ils croyaient encore. Mahomet résolut de chercher, parmi ses pèlerins eux-mêmes, le public susceptible de se convertir à sa religion, et il se mit à les catéchiser en leur récitant des versets du Coran. Nombreux furent bientôt les pèlerins qui se réunirent autour de lui. Le succès de cette propagande finit par inquiéter l'aristocratie de la Mecque, qui résolut de l'arrêter, mais comment? Si les notables avaient réussi à obtenir des autorités de la ville l'arrestation de Mohammed, ils risquaient de créer dans le pays un mouvement de révolte parmi ses nombreux partisans. Ils s'arrêtèrent alors à la décision de charger l'un des leurs, Abou Taleb, d'aller faire une démarche auprès du prophète pour lui conseiller de renoncer à sa religion. Mohammed sembla d'abord céder à cette pression, mais bientôt il se reprit et déclara que sa faiblesse lui avait été inspirée par Satan. La lutte contre l'aristocratie mecquoise commence alors avec netteté. Devant les persécutions, nombre de ses fidèles s'enfuirent en Abyssinie. Les conversions solennelles et tumultueuses furent proclamées. Dès lors, les autorités s'émurent, l'ordre social était menacé, et on décida de mettre en interdit tout le groupe des parents et des amis de Mohammed jusqu'à ce que ceux-ci aient obtenu du prophète le renoncement à ses prédications. Mohammed céda et s'en alla faire retrait dans le Chib. Il perdit sa femme, son oncle, et on le croyait à ce moment fini, son œuvre compromise à jamais. Mais Mohammed, dans le silence et le recueillement, continuait à travailler. Il songeait à faire sortir l'islamisme de la Mecque et à l'étendre dans d'autres régions. Dans ce but, il se rendit à Zaïf, où les riches commerçants le reçurent à coups de pierre, mais à Yathrib, il trouva un meilleur accueil. Yathrib était un centre judaïque préparé à recevoir la nouvelle croyance, et la prédication de Mahomet y réunit bientôt de nombreux adhérents. 12 habitants de cette ville, les 12 apôtres, vinrent trouver Mohammed sur la colline de l'Aqaba et lui firent le serment solennel de propager sa doctrine et de la défendre contre toutes les attaques comme ils défendraient leurs femmes et leurs enfants. Devant ces excellentes dispositions, Mohammed décide alors de transporter à Yathrib le siège de son apostolat. Il se dirigea vers cette ville qu'il atteignit le 22 septembre 622, date qui est devenue l'année de l'Hégire, à partir de laquelle comptent les musulmans. Yathrib est devenue par la suite Médine. Ce fut à Médine que le prophète fonda définitivement non pas seulement une doctrine, mais toute une société nouvelle, car ce grand apôtre se révéla alors législateur, politicien et guerrier. Il codifia les formes extérieures de son culte, dont nombre de pratiques sont empruntées à Moïse, mais avec certaines modifications. Il ordonna les 5 prières par jour, annoncées par la voix du muezzin, la prière en commun du vendredi, définit les aliments purs et impurs, imposa les ablutions, le jeûne pendant le mois du Ramadan, et enfin, le paiement d'une sorte d'imposition. Mais voici les Juifs qui se fâchent et s'inquiètent de cette concurrence qui menace Jérusalem comme elle menaçait la Mecque. La lutte recommence. Elle était d'autant plus intense, cette lutte, qu'il était devenu nécessaire pour Mahomet d'assurer la subsistance de ses fidèles. C'est pour résoudre ce problème que le prophète se lança dans la période guerrière de sa vie. Il commença par piller, avec l'aide de ses partisans, organisés en bandes armées, les caravanes des riches marchands mécois. L'un d'eux, Abu Sofim, ainsi assailli, décida de se défendre et demanda du secours à la Mecque, qui lui envoya 1000 fantassins et 100 cavaliers. C'était une force assez sérieuse contre laquelle les partisans de Mahomet hésitaient à se mesurer. Mais le prophète les harangua et leur promit comme renfort le concours de 1000 anges du ciel. Sur cette promesse, les coraniques engagèrent le combat qui eut lieu à Badr. Ils réussirent à mettre en déroute complète les Mécois. Cette victoire fortifiait la position de Mahomet qui devenait aux yeux de tous non seulement un prophète, mais le chef tout-puissant qui peut mobiliser les anges du ciel pour venir à son secours. Il voulut profiter de ce succès pour écraser définitivement ses ennemis et se débarrasser des Juifs, dont l'argent lui était d'ailleurs nécessaire pour continuer la lutte. Il se livra alors à certaines exactions et à des actes cruels qui lui furent reprochés par la suite et constituent la principale faiblesse de son histoire. Nouvelle grande bataille avec les Mécois en l'an 3 de l'Hégire. Mohammed avait cette fois devant lui 3000 fantassins et 500 cavaliers conduits par Abu Sofi. Le combat se dessina d'abord à son avantage, mais les désirs de pillage apportèrent le désordre parmi ses troupes et il fut vaincu. Lui-même reçut plusieurs blessures et on le crut mort. Chose curieuse, cette défaite ne diminua pas son prestige, car il eut l'habileté de proclamer dans son Coran à ses fidèles « Vous avez été punis parce que vous avez désobéi au prophète. » Aussitôt après, il lançait aux Mécois un défi sensationnel que ceux-ci jugèrent inutile de relever. Mohammed, riche des dépouilles des Juifs, continue la guerre dans le Hedjaz et vient enfin mettre le siège devant la Mecque elle-même. Ses habitants ont peur et concluent un arrangement pacifique avec le prophète. Cette convention ne fut pas tenue et quelque temps plus tard, Mohammed entrait dans la ville et s'y livrait à une série d'exécutions qui contribuèrent à lui faire une réputation d'homme vénal et sanguinaire. Mais cette réputation servit dans tous les cas à assurer cette fois définitivement l'islamisme. Il faut convenir qu'en dehors de cette période de lutte féroce et peut-être nécessaire, Mahomet fut toujours un homme doux et paisible, simple de mœurs et bienveillant à tous. Plus une goutte de sang ne fut versée à la Mecque lorsqu'il y rentra en vainqueur. Le paradis, disait-il, est au pied des mers, et il adorait les enfants autant que les femmes, ce qui explique la polygamie de sa religion. En l'an 14, au mois de juin, à l'apogée de son triomphe, aimé et craint de tous, il se rendait au cimetière de la Mecque pour y prier sur la tombe de ses fidèles. C'est là qu'il contractait la maladie qui devait l'emporter. Malgré son malaise, il voulut se rendre à la mosquée. Il parla à ses fidèles, puis rentra dans sa maison où il tomba entre les bras d'Aïcha, sa dernière épouse. Quelques minutes plus tard, il mourait brusquement. Ses fidèles l'enterrèrent dans sa maison, à l'endroit même où la mort l'avait frappé. Le créateur de l'islam avait disparu, mais son œuvre reste, et 175 millions de mahométans sont maintenant répandus à travers le monde. C'était Mahomet, par Jules Chancel.